Bonjour à toutes et à tous. Je profiterai du privilège de pouvoir parler à tous en même temps pour vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021. Alors, on se demande tous un peu ce qu'on peut se souhaiter, je veux dire, vu les circonstances particulières, mais ce que je me dis, c'est que ce sont souvent dans les temps difficiles que le peuple d'Israël s'est rapproché de Dieu. Et je me dis que si ces circonstances plus difficiles peuvent nous permettre de nous rapprocher de Dieu, eh bien 2021 sera une année utile. Nous allons entamer ce matin une série de prédications sur la première épître aux Corinthiens. Je commencerai dans un premier temps par vous présenter rapidement l'épître, avant de méditer la première partie du chapitre 1. Il fallait faire des choix, ça risque déjà d'être un petit peu long ce matin. Et dans la seconde partie du chapitre 1, on traite un thème qui est repris dans les chapitres 2, 3 et 4. Donc j'ai pensé que ce seraient les suivants qui aborderaient ce thème. Commençons tout d'abord par situer l'église de Corinthe, la ville de Corinthe. C'est une ville qui a été fondée environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle est située sur une petite bande de terre très étroite qui fait 6 km, qu'on appelle un isthme, qui sépare les deux parties de la Grèce, le Péloponnèse, qui est au sud, en bas, et la Grèce continentale, qui est plus au nord. Et donc, comme on le voit sur la carte ici, Corinthe est située quasiment à mi-chemin entre Athènes et Sparte. Alors, on n'est pas des spécialistes de la culture grecque, mais enfin, Athènes, Sparte, c'est des noms qui nous rappellent quelque chose. Quand on est allé à l'école, on sait que ce sont les deux plus grandes cités grecques de l'Antiquité. Et donc, quand on est situé entre les deux, comme ça, eh bien, on est pas mal placé. Les 6 kilomètres donc, qui séparent les deux ports qu'il y a de chaque côté, eh bien, jouent un rôle particulier parce que, en fait, ils vont permettre d'éviter 300 kilomètres de navigation côtière en hiver. Et j'ai été surpris de découvrir que, bien sur ces 6 kilomètres, ils ont aménagé un ancêtre du chemin de fer, on va dire, c'était le chemin de bois. Il y avait des bois graissés qui étaient posés tout le long de ces 6 kilomètres. Et ils avaient inventé un peu l'ancêtre du train, c'est-à-dire qu'ils mettaient les bateaux sur des chariots à grosses roulettes. Et ils préféraient faire pousser ou tirer, je ne sais pas exactement quelle technique ils utilisaient, mais les petits bateaux sur 6 km plutôt que de leur faire naviguer sur 300 km, ce qui l'hiver pouvait être quelque chose d'assez dangereux. Cette cité de Corinthe, elle a été détruite en 146 avant Jésus-Christ pour avoir comploté contre Rome. Mais elle a une situation tellement particulière que Jules César décide de la reconstruire en 44 avant Jésus-Christ et d'y établir le siège de la province romaine qu'on appelle l'Achaïe, donc qui est cette zone-là, où séjournait aussi une colonie de soldats démobilisés. Elle est redevenue rapidement prospère, et à l'époque où l'épître est écrite, c'est une ville d'environ 800 000 habitants. Je ne suis pas un spécialiste de la culture antique, mais j'ai été surpris qu'une ville d'une telle importance existe à cette époque, et j'ai lu qu'en fait, on peut considérer que c'est la troisième ville par importance après Rome et Alexandrie. Et en fait, pour avoir une idée, ça correspondrait à peu près à Marseille aujourd'hui. 800 000 habitants. La moitié des habitants sont des esclaves ou des serviteurs, et on trouve dans cette ville un grand mélange de races, comme beaucoup de villes portuaires, et puis vous voyez bien qu'on est à un confluent, là, je veux dire, entre l'Europe balkanique, la Turquie, etc. Enfin, on est à un croisement, là, donc il y a un grand mélange de races, de cultures, et donc de gens de niveaux sociaux. Les Corinthiens sont essentiellement des Romains, des Grecs, et des Juifs qui ont été chassés de Rome par l'empereur Claude. C'est une ville qui, depuis longtemps, avait très mauvaise réputation. Elle était connue pour ses nombreux temples, dont un qui était dédié à Aphrodite, la déesse de l'amour. J'ai lu qu'il y avait pas moins de 26 temples dans Corinthe et un millier de prêtresses qui pratiquaient la prostitution sacrée. À l'époque, le terme « corinthianisé » signifiait « vivre dans la débauche ». Et quand on parlait d'une fille de Corinthe, ça désignait une prostituée. Les circonstances de la rédaction de l'Épître maintenant. Paul a fondé l'église de Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire, on pense que c'est vers les années 51-52, et on peut lire cela dans Actes 18. Il travailla avec Priscille et Aquilas comme fabricants de tentes pour ne pas être à la charge de l'église locale, et assez bizarrement, cela lui a été reproché. Il a commencé par apporter la bonne nouvelle aux Juifs dans la synagogue. Le chef de la synagogue, d'ailleurs, s'est converti, il s'est fait baptiser, ainsi qu'un grand nombre de gens d'origine païenne. Et bien sûr, son succès suscita une forte opposition des Juifs, et Paul fut obligé de quitter d'abord la synagogue, puis la ville. On pense qu'il a séjourné 1 an et demi à Corinthe lors de son premier séjour. Il a ensuite écrit une première épître à la lettre de Corinthe, mais dont on a perdu la trace, avant de rédiger celle que nous appelons 1 Corinthiens vers les ans 55-56. Cette lettre s'adresse donc à une église qui n'a que 4 ou 5 ans. Il faut en être conscient. Je n'entrerai pas dans le détail du plan de l'épître, simplement sommairement, on peut dire qu'à part les salutations habituelles, que ce soit au début et en fin de lettre, on peut distinguer 2 grandes parties, les chapitres 1 à 6, où Paul veut corriger des fautes qui lui ont été rapportées. Il a ces paroles terribles au verset 17 du chapitre 11 où il dit « Vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Mettez-vous à la place de ceux qui reçoivent cette lettre. Et on peut se dire que la grande diversité sociale des membres, la grande diversité culturelle aussi, est probablement à l'origine des problèmes qui sont rencontrés par l'Église. Les riches, nous est-il dit à certains moments, ont tendance à négliger et à mépriser les pauvres. Les mœurs corrompues de la ville ont laissé des traces. Certains continuent à vivre dans l'immoralité. La philosophie et la culture grecque mettent l'accent sur la raison et sur l'âme. Certains vont considérer qu'ils peuvent donc faire ce qu'ils veulent de leur corps, alors que la Bible nous enseigne que le corps est le temple du Saint-Esprit. D'autres vont pécher par orgueil. Leur éducation, leur culture leur donne à penser qu'ils sont supérieurs aux autres. La résurrection des corps prêchée par Paul leur paraît totalement irrationnelle. Et donc, ça les choque et certains la rejettent. Bref, dans cette première partie, Paul veut redresser toutes ses erreurs et remettre un peu d'orthodoxie dans l'enseignement de l'Église. Dans la deuxième partie, il veut répondre à des questions qui lui ont été posées par des Corinthiens dans une lettre dont nous ne disposons pas. Comment les chrétiens doivent-ils considérer le mariage? Est-ce qu'il est permis de manger de tout? Et la place de l'homme et de la femme dans l'Église? Et cette question de la résurrection, autant de questions que se posent de jeunes convertis, soit des païens qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu, soit des juifs qui viennent d'entendre un message qui est complètement contraire à ce qu'ils avaient entendu auparavant. Dans quel état d'esprit Paul a-t-il rédigé cette lettre? Paul doit à la fois dénoncer des dérives, des erreurs, des excès, répondre à certaines remises en cause de son autorité, mais aussi veiller à ne pas décourager de jeunes convertis et à ne pas paraître trop dur ou cassant. Son but n'est pas de condamner, mais de mettre en garde ceux qu'il appelle ses enfants dans la foi. Aussi trouve-t-on dans l'épître des mots sévères, mais aussi des encouragements, des réprimandes, mais aussi des déclarations d'amour, des condamnations, mais aussi des sujets de reconnaissance. Dans la seconde épître aux Corinthiens, il dira « C'est dans une grande souffrance et le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin de vous attrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. » Rappeler à l'ordre, mettre en garde, c'est pas chose facile, même pour Paul, qui craint d'attrister les Corinthiens, de les décourager. Aussi veut-il leur rappeler que la discipline est une marque d'amour. Et cette idée était déjà exposée dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, par exemple, 2 citations. Proverbe 23, verset 13, « N'épargne pas la correction à l'enfant. » Ou Proverbe 29, verset 11, « La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. » Ce n'est pas forcément un langage qui est très partagé aujourd'hui. corriger quand on pense au fond que ben, la nature de l'homme est bonne, on ne voit pas la nécessité de corriger. Et bien là, que ce soit Paul ou le livre des Proverbes nous disent que laisser faire, ce n'est pas une marque d'amour, au contraire. Aujourd'hui, les châtiments corporels sont interdits, et je m'en réjouis, même si j'ai un point de vue plus mitigé sur une fessée occasionnelle. Mais enfin bon, maintenant c'est interdit, donc je n'irai pas plus loin. Et je me dis, mais que penserait-on d'un professeur qui ne corrigerait pas les fautes de ses élèves? Est-ce qu'il serait un bon professeur? Est-ce qu'il serait une source de progrès pour ses élèves? De même, nous avons tous besoin d'être corrigés, d'être repris, remis dans le bon chemin lorsque nous nous en écartons. Comme je le disais, ce n'est pas facile quelquefois de corriger. On peut avoir peur de le faire. Mais Paul est un exemple qui, en signe d'amour, n'a pas hésité à corriger ce qui devait l'être. Nous avons dans cette épître aussi un exemple bien utile pour nous aider à gérer des conflits au sein de l'Église, au sein des familles, au sein de tous les groupes. Il faut avoir le courage de dire les choses, mais avec amour. L'objectif doit être de corriger, de redresser, plutôt que de condamner ou d'humilier. Nous regarderons plus tard les mots choisis par Paul pour appeler les Corinthiens à changer de comportement, mais nous voyons dès maintenant que son but n'était pas de condamner, de blesser, mais d'appeler à un changement, à une conversion salutaire. Nous en venons à l'étude de l'Épître elle-même et je ferai une première lecture avec les trois premiers versets que nous appelons en général les salutations. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Trois versets, mais que de choses déjà dans ces trois versets. Paul commence par rappeler à quel titre il s'adresse à eux, car certains dans l'Église contestent son autorité. Il agit en tant qu'apôtre, c'est-à-dire envoyé par Dieu. Il dira plus tard dans le chapitre 9, « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Paul rappelle ici qu'il a été choisi et envoyé par Dieu lui-même. C'est à ce titre qu'il leur a apporté la bonne nouvelle de l'Évangile. Son autorité ne vient donc pas de son éloquence, certains trouvent qu'il n'est pas très éloquent, de sa grande culture, quelques-uns trouvent ses messages un peu trop simplistes, ou de tout autre mérite personnel. Son autorité, elle lui vient directement de Dieu. Et il leur rappelle au passage qu'il est quand même le fondateur de l'Église, leur père spirituel. Il n'oublie pas d'associer Sosthène, qui fut peut-être le secrétaire à qui Paul dicta sa lettre. Sosthène, c'est un prénom très répandu en Grèce, donc on n'a pas de certitude, mais on pense qu'il pourrait être le chef de la synagogue, qui s'est converti, qui a été battu par la foule lorsque les Juifs ont voulu faire un procès à Paul et que le gouverneur a refusé de prendre parti dans ce conflit religieux. Et on se dit qu'en mentionnant Sosthène, eh bien Paul rappelle la puissance de transformation de Dieu qui a pu convaincre le chef de la synagogue de se convertir à la foi chrétienne. Paul s'adresse à l'Église dans sa totalité. Tous sont concernés par la lettre, à des degrés divers, peut-être pas à chaque instant, mais globalement, tous sont impliqués. soit parce qu'ils ont commis des péchés que Paul veut dénoncer, soit parfois parce qu'ils ont laissé faire, sans réagir. Il ne s'adresse pas à un ou plusieurs groupes dans l'Église, mais à toute l'Église. Et cela m'a fait penser à la lettre aux sept Églises, où quand Jésus s'adresse aux Églises, il ne s'adresse pas à quelques-uns dans l'Église, mais il s'adresse à l'Église. L'Église locale est un tout. Et là, il doit y avoir une certaine solidarité, une certaine unité. Nous le verrons dans la suite. Et dans ses salutations, Paul définit également ce que c'est qu'une église locale. C'est un peuple qui appartient à Dieu, qui invoque le nom du Seigneur, qui a déjà été sanctifié en Jésus-Christ, qui a été choisi par Dieu, qui est saint, c'est-à-dire mis à part pour Dieu, séparé de tout ce qui souille. Paul commence déjà à répondre aux Corinthiens, les membres de l'Église ont été appelés, ils n'ont aucun mérite personnel, aucune raison de s'enorgueillir. Enfin, lorsque Paul dit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, il ouvre largement le champ des destinataires. Sa lettre ne s'adresse pas qu'aux seuls Corinthiens, mais à tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ, dans les autres églises locales de l'époque, mais je crois à nous aujourd'hui aussi. Cet épître délivre un enseignement à vocation universelle. Pensons par exemple au chapitre 12, qui nous parle des dons accordés par Dieu à chaque croyant. Au chapitre 13, qui nous dit ce qu'est le véritable amour. Au chapitre 15, qui nous parle de la résurrection. Ce ne sont pas des thèmes qui ne concernent que les Corinthiens. Et Paul continue au verset 3 en nous parlant de la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'expression de tout ce que Dieu nous donne dans son amour. Et il nous parle aussi de la paix, cette paix qui est rendue possible avec Dieu parce que Jésus nous a réconciliés avec Dieu en donnant sur la croix sa vie pour nos péchés. Nous continuerons la lecture. Et si on sait que Paul écrit pour régler des problèmes, on peut être surpris de la façon dont il aborde cette lettre. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet. Quand on sait ce qu'il va dire au chapitre 9, il commence par dire « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi pour vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien que Paul ait eu connaissance de graves désordres dans l'église de Corinthe, il commence par être reconnaissant pour la grâce qui leur a été accordée, malgré toute la tristesse que les Corinthiens lui ont occasionnée. Il insiste même en précisant qu'il rend continuellement grâce à Dieu à leur sujet. Dans le commentaire d'Henri Briand, dont je me suis largement inspiré pour cette méditation, on peut lire « Heureux l'ouvrier de Dieu qui peut en faire autant, c'est-à-dire être reconnaissant envers Dieu. Béni le chrétien qui peut voir derrière les fautes de ses compatriotes la grâce de Dieu et remercier Dieu à leur sujet. Car nous sommes tous des chantiers inachevés et pleins de défauts pas encore corrigés. Nous sommes tous des chantiers inachevés et pleins de défauts, pas encore corrigés. Fin de la citation. Paul est reconnaissant pas pour ce que les Corinthiens ont fait, mais pour ce que Dieu a fait pour eux. On peut trouver que certains sont insupportables, quelquefois, mais ils sont quand même des enfants de Dieu. Dieu a comblé les Corinthiens de toutes les richesses à travers sa parole et l'enseignement que Paul leur a délivré. Il leur a donné tous les dons spirituels. Personnellement, je comprends qu'il les a donnés à l'Église, pas forcément à chacun en particulier, mais dans son Église, l'ensemble dispose de tous les dons spirituels. Et il leur a donné l'assurance qu'il achèvera l'œuvre de sanctification commencée en eux. C'est important dans les circonstances que traverse l'Église de Corinthe d'avoir cette assurance que Dieu est fidèle et qu'il achèvera ce qu'il a commencé. Et je me dis qu'on ne peut que s'attrister en voyant le déséquilibre entre ce que Dieu a déjà fait et accordé et ce que les Corinthiens ont fait en retour à ce stade-là. On peut s'interroger où sont les signes de leur transformation. Mais loin de moi l'idée de vouloir fustiger les Corinthiens, le même danger nous guette. Il est si facile de se glorifier de ses connaissances, de tout ce que nous avons appris à l'Église depuis que nous la fréquentons. Il est si facile d'oublier que l'essentiel, dira Paul aux Galates, c'est la foi agissante par l'amour. Paul nous rappelle, par exemple au chapitre 13, qu'un chrétien peut avoir toute la connaissance de la parole. Au chapitre 12, avoir reçu tous les dons importants. Avoir été l'objet de bénédictions, mais s'il n'a pas l'amour, il est une timbale qui résonne dans le vide. Il peut avoir une vie spirituelle bien pauvre. Même les dons et les bénédictions reçus peuvent devenir une source d'orgueil, de jalousie, de rivalité. Si Paul se réjouit de tout ce qu'ils ont reçu, il les réprimande sévèrement pour leur attitude et la mauvaise utilisation de ses bienfaits. Une deuxième citation d'Henri Briand. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'emploi des dons spirituels, donc même quand on se met à l'œuvre dans l'Église, eh bien l'emploi des dons spirituels n'est pas nécessairement la preuve d'une relation véridique avec le Seigneur. On se rappelle ces paroles du Seigneur dans Matthieu 7, 21-23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs le diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Fin de la citation. Chasser des démons, prophétiser, faire des miracles, c'est ça, commettre l'iniquité. On est perplexe quand on entend ces paroles de Jésus. L'explication que je me donne pour moi, c'est de dire que faire, oui, j'ai parlé des œuvres qui devaient être les conséquences logiques de la foi, mais les œuvres sans amour pour Dieu et sans amour pour les autres, elles sont sans valeur. Aussi, Paul adresse cette exhortation, c'est dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. » Et il s'applique à lui-même cette exhortation, puisqu'il dit dans la première épître, au chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Si Paul a peur d'être disqualifié, combien nous devons être attentifs. On pourrait être découragé, mais Paul est un exemple où il nous dit qu'il poursuit la lutte, qu'il ne pense jamais être arrivé. Alors comment trouver des encouragements pour persévérer? Que faire pour ne pas être disqualifié? Eh bien, Paul dira aux Galates, au chapitre 5, verset 16, « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Aux Colossiens, il dira au chapitre 3, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. » Verset 14, « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour. » Et le chapitre 13 nous dira ce que c'est que le véritable amour. Tout ce programme, nous savons bien que nous en sommes incapables, nous seuls. Mais nous pouvons être assurés que si nous demandons à Dieu son aide pour faire sa volonté en nous, si nous le prions de le laisser agir en nous, je crois qu'on peut être certain que Dieu répondra favorablement à nos prières. Jésus n'a-t-il pas dit aussi dans Matthieu 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Tout ce que Paul nous exhortait à demander, laisser faire l'esprit, mourir à ce qui est terrestre et tout cela, ça nous pouvons être sûrs que ce sont des choses que Dieu agrée. Et puis ce formidable encouragement, malgré l'état charnel des Corinthiens à cette époque, Paul leur dit qu'il a l'assurance que Dieu, et non eux, achèvera l'œuvre commencée en eux. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants s'ils mettent leur confiance en Jésus. Aussi faibles que nous soyons, nous pouvons faire confiance à Dieu qui ne se déjuge jamais. Il est fidèle et ce qu'il a promis, il le fera. Reprenons notre lecture. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, moi à Céphas, et moi à Christ. » Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Paul aborde ici une question qui reste malheureusement d'actualité dans toutes les époques, les divisions au sein de l'Église. L'Église de Corinthe s'est divisée en factions, chacune se réclamant d'un guide, d'un leader spirituel. On imagine assez facilement les discussions et les arguments. Moi, je suis de Paul, c'est lui qui est venu à nous et qui nous a apporté la parole. Ah oui, mais moi je préfère Apollos, hein, il est beaucoup plus éloquent, il sait argumenter. Paul, lui, il est un peu faible, un peu simpliste hein, dans ses prédications. Il parle même de la résurrection des morts, il dit des choses bizarres, c'est pas raisonnable ça. Ah, moi je préfère Pierre, c'est quand même lui que Jésus a désigné comme chef de l'Église. Ben moi je vais tout vous mettre d'accord, moi je suis de Christ, je suis le plus spirituel de tous. Vous imaginez que les débats, comment ça peut dégénérer tout ça? Ce qui pose le problème, ce n'est pas que les Corinthiens aient eu de l'admiration pour certains serviteurs de Dieu. Paul les invitera même plus tard à imiter les serviteurs de Dieu qui sont fidèles au Seigneur. Non, ce qui pose problème, c'est d'être attaché davantage à une personne qu'à Christ. Ce qui est choquant, ce n'est pas qu'il soit plutôt en sympathie avec Pierre ou avec Paul, c'est qu'ils disent « moi, moi, moi ». Elle est où l'Église locale maintenant? L'intérêt de l'Église locale. Leur prise de position divise. Jacques le dit d'ailleurs dans son épître, « D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous pensez à vous, mais est-ce que vous pensez à l'Église ? Christ est-il divisé? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Paul veut dire par là que cette attitude n'est pas spirituelle, mais qu'elle est charnelle. L'église locale, ce n'est pas l'église d'un homme ou d'un collège d'anciens, c'est l'église du Seigneur. Qu'est-ce donc qu'Apollos et que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon le Seigneur, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. L'important, ce n'est pas le serviteur, c'est Dieu. Les serviteurs, ils passent. Les serviteurs, eux, ils sont faillibles. Dieu, lui, continue de veiller constamment sur son Église. Seul Christ est notre modèle parfait. Alors, bien sûr, certaines divisions sont nécessaires à certains moments à la manifestation de la vérité. Et Jésus lui-même a annoncé qu'il y en aurait. Le chrétien doit se séparer de ceux qui enseignent de fausses doctrines. Des personnes qui s'obstinent à déshonorer Dieu par leur conduite. Mais nous devons aussi reconnaître qu'une certaine diversité d'opinions, de pratiques, nous oblige à nous interroger sur ce que nous croyons, alors qu'une uniformité de la pensée nous inciterait à nous endormir sur nos certitudes. Si tout le monde est pareil, eh bien on finit par être certain d'avoir raison. Il y a un grand débat sur les réseaux sociaux en ce moment, avec des algorithmes qui vous mettent essentiellement en rapport avec des gens qui pensent comme vous. Comme vous êtes de plus en plus nombreux, apparemment, à avoir ce point de vue-là, vous finissez par être convaincu que vous avez raison, et puis tous les autres, vous ne les entendez plus. C'est la même chose dans l'Église locale. Il y a des choses qu'il faut savoir dénoncer, dont il faut savoir se séparer, mais il faut aussi savoir accepter la différence. Lorsque Paul exhorte les Corinthiens à vivre dans l'unité, il ne leur demande pas de penser tous exactement la même chose. L'unité, ça n'est pas l'uniformité. Ça n'exclut pas la diversité. Le mot qui est traduit par « division » signifie plus littéralement « une déchirure ». Et celui qui est traduit par l'expression « être parfaitement uni » signifie plutôt « réparer »,« restaurer », comme on le faisait à l'époque pour un filet de pêche. Moi, cette image, elle m'a parlé. Un filet de pêche, quand il est troué, il ne sert plus à grand-chose. Il ne va pas attraper beaucoup de poissons. De la même façon, une église qui se déchire, elle n'est pas très attrayante. Elle va même décourager ses membres. Et malheureusement, je pense qu'on a souvent été témoin des dégâts que ça fait dans une église, quand les gens, et surtout les responsables, commencent à se déchirer entre eux. Eh bien, en général, on voit des membres partir. On a connu, nous aussi, dans le Nord, une fois, une division comme ça, l'église s'est coupée en deux. Je me dis, mais que fait un pêcheur lorsqu'il s'aperçoit que son filet est troué? Ben, il s'empresse de le réparer, pardon. Et il retisse les mailles qui sont défaites. Ce que Dieu demande, c'est que nous prenions soin les uns des autres, pas que nous prenions parti les uns contre les autres. Au chapitre 12, il prend cette image en disant « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » Réparer les déchirures, retisser les liens, voilà ce que Paul va demander aux Corinthiens au début de son épître. Alors comment s'y prend-il? Eh bien, il va leur dire « Je vous supplie ». Dans d'autres versions, on lit « Je vous exhorte ». Frères et sœurs, par le nom de Jésus-Christ. Paul s'adresse à des frères et des sœurs. Même s'il a rappelé qu'il est apôtre, il se considère comme un membre de l'Église universelle, un membre de l'Église parmi d'autres. Si on relit les 10 premiers versets, on verra que 10 fois il va citer le nom de Jésus-Christ. Paul agit en serviteur de Jésus-Christ. Ce n'est pas lui, Paul, qui prend position. C'est Jésus qui, par sa bouche, reprend les Corinthiens. Et quand il dit « je vous supplie », il n'est pas dans la position du leader qui ordonne, qui impose, qui commande. Il veut que cette obéissance, elle se fasse par adhésion, par acceptation, et non pas sous la contrainte et à contre-cœur. L'obéissance doit être un geste d'amour. Il dira aux Corinthiens dans la seconde épître, au chapitre 7, « Si je vous ai causé de la peine par ma précédente lettre, je ne le regrette pas. Certes, je l'ai d'abord regretté en voyant combien elle vous a attristé sur le moment. Mais maintenant, je me réjouis, non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous ait amené à changer d'attitude. Car la tristesse que vous avez éprouvée était bonne aux yeux de Dieu. Si bien qu'en fait, nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Cette tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Et là, on voit le but que Paul recherchait, l'empressement des Corinthiens à obéir. Quelles excuses vous avez présentées? Quelle indignation vous avez manifestée? Et quelle crainte, quel ardent désir de me revoir? Quel zèle, quelle détermination à punir le mal? Par votre attitude, vous avez prouvé que vous étiez innocent en cette affaire. Paul a su dénoncer ce qui devait l'être sans craindre de déplaire, mais il l'a fait avec amour, avec le souci de laisser aux Corinthiens la possibilité de changer d'attitude, de se racheter, plutôt que de les condamner sans appel. Il a ainsi contribué à réparer les relations au sein de l'Église de Corinthe, et les Corinthiens ont également eu leur part à apporter volontairement, et non pas uniquement par obéissance et soumission ou contrainte, mais par amour pour Christ. Alors j'en arrive à la conclusion. Ce premier chapitre de 1 Corinthiens nous montre comment Paul a procédé pour corriger les dérives survenues dans une jeune église, mais qui peuvent se reproduire dans n'importe quelle assemblée. Et on peut résumer la méthode de Paul par une de ses directives à Timothée. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend, encourage, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Avant d'en venir au sujet qui fâche, Paul a pris la précaution de commencer par dire sa reconnaissance à Dieu pour tout ce que Dieu avait accordé aux Corinthiens, comme à chaque croyant. S'il voit bien les désordres dans l'église de Corinthe, il n'oublie pas qu'il s'adresse à des enfants de Dieu qui ont accepté le message de l'Évangile, même s'ils sont encore très imparfaits. Et il a cette assurance que Dieu achèvera l'œuvre commencée en nous. Il ne cède pas au découragement, mais il espère en Dieu. Le problème qu'il aborde dans cette épître, ici du moins au début de l'épître, c'est celui des divisions. Il ne s'agit pas de demander que tous aient les mêmes pensées ou les mêmes opinions sur tous les sujets, mais il invite les Corinthiens à agir uniquement par amour pour Dieu et non par esprit de parti ou de dispute, et à veiller surtout à ne pas créer de déchirure dans l'Église. Rappelons-nous cette prière de Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » C'est la volonté de Jésus et c'est la volonté de Dieu que nous soyons unis. Christ est mort pour chaque chrétien, qu'il pense comme moi, ou pas tout à fait comme moi, ou quelquefois très différent de moi, mais s'il accepte le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais nous avons vu qu'il dit à Timothée aussi, prêche la parole. Donc Paul n'est pas prêt à trahir la parole de Dieu en acceptant des compromis, des accommodements pour éviter l'affrontement. Il suffit de se souvenir comment Paul a résisté à Pierre à un moment en lui reprochant de changer de comportement quand il était en présence des Juifs. Lui qui, avec des païens, se comportait un peu comme des païens, enfin, quand je dis qu'il se comportait comme un païen vis-à-vis de la nourriture, il abandonnait le rite juif, mais quand il retrouvait des Juifs en présence, eh bien là, il refaisait comme avant. Et Paul lui dit, mais tu es en train de remettre tout le salut par la foi en question. Et là, il résiste, il ne cède pas. Par contre, il dira dans Philippiens, si vous êtes d'un autre avis sur un point, eh bien Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Sachons donc discerner ce qui est essentiel dans notre fidélité à Jésus et ce qui est simplement de l'ordre de la pratique, de la façon dont moi je comprends le message et de la façon dont je l'applique. Que Dieu bénisse sa parole et nous aide à la mettre en pratique.